Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur et bienvenue dans cette nouvelle chronique Sortons le grand jeu. Eh bien, je suis accompagné de Cyrus pour cette chronique. Bonjour Cyrus.
Bonjour Pionfesseur.
Ça va bien ?
Mais ça va très bien. Et toi ?
Ça va super. Donc, on va vous présenter rapidement cette nouvelle chronique. Donc, Sortons le grand jeu, c'est une chronique qui sortira tous les 2 mois.
C'est ça, bimestrielle comme on dit, en alternance avec les thermofromages et donc en remplacement de Au coin de la table.
C'est ça, donc qui malheureusement nous ont quittés la saison précédente.
Ils nous ont quittés prématurément, paix à leur âme.
Donc du coup, Sortons le grand jeu, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une chronique où on va parler de vieux jeux, entre grosses guillemets, parce que bon, vieux, aujourd'hui dans le milieu du jeu de société, qui est un milieu assez jeune pour les jeux de société modernes, un vieux jeu, c'est à partir de 10 ou 15 ans, il y a 10 ou 15 ans, quoi. Donc quand je veux dire vieux jeu, c'est-à-dire qu'on parle de grands classiques, voilà, des espèces de monuments du jeu de société moderne.
On va tenter tous les deux de voir ce que ces jeux ont engendré, s'ils sont à l'origine de certaines mécaniques, par exemple.
Et donc, ça sera aussi l'occasion pour nous de parler de l'auteur du jeu.
On va essayer ensemble de voir si c'est un jeu qui a influencé son auteur dans la production qui suit, ou si, au contraire, c'est plutôt l'aboutissement d'un processus créatif itératif, dans lequel l'auteur en fait va créer une mécanique, puis la faire évoluer jusqu'à arriver au jeu en question.
Ou peut-être qu'au contraire, ça serait juste un jeu totalement isolé, une sorte de pépite d'or au milieu d'un tas de terre sans grand intérêt parmi le reste de sa ludographie, quoi.
Et l'idée en fait de cette chronique, c'est aussi, partant de ce jeu, vous l'aurez peut-être compris, de tisser une sorte de toile d'araignée autour du jeu, donc parler du jeu, de ses mécaniques, de son contexte historique, également donc de son auteur et des créations qui peuvent avoir suivi ou qui peuvent être les créations précédentes.
Et même peut-être de ce qui a influencé du coup d'autres auteurs ou le monde ludique en général, quoi.
Exactement.
Et donc pour cette première chronique, de quel jeu est-ce qu'on a décidé de parler, Cyrus ?
Eh bien on va parler de Puerto Rico.
Le fameux, le grand Puerto Rico, le monument du jeu de société moderne, on va dire. Un jeu de Andreas Seyfarth. On va commencer par une petite fiche signalétique pour commencer. Donc Puerto Rico, c'est un jeu qui est sorti en 2002 chez Alea. Donc Alea, en gros, c'est la branche de chez Ravensburger qui faisait des jeux un petit peu plus complexes.
Ouais, je pense qu'on peut le dire, c'est la branche des vrais jeux Ravensburger.
Ouais, les vrais jeux, voilà, si vous êtes un élitiste, machin. Ouais.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est une branche qui est dirigée par Stéphane Bruck. Et je crois qu'il est à peu près tout seul, en fait, dans cette branche. Je crois qu'on en parlait dans l'interview de Ravensburger.
Donc l'interview qui était l'épisode numéro combien ?
Ah, oula, ah, tu me pièges. Ça devait être la 93, mais je suis pas sûr.
Ouais, ouais.
Non, c'était
on vous mettra le lien dans le billet. Du coup, ouais, une branche de jeu un petit peu plus sérieux. Donc ça, c'était sa première édition en 2002. C'était un jeu qui était initialement prévu pour 3 à 5 joueurs, mais il y a une variante officielle pour 2 joueurs qui est apparue la même année.
Oui. Mmh. Alors, je pense que vu le succès du jeu, ils ont été obligés.
Alors pour le coup, c'est une variante qui a été à l'époque traduite par Bruno Feduti, c'est ça ?
Oui, il y a une traduction par Bruno Feduti, effectivement. Ouais. Alors ça, du coup, je rappelle, hein, c'était 2002, hein, donc c'était encore une époque où le noyau du monde du jeu de société était assez petit. Et on retrouve, en se penchant sur le passé, comme ça, on retrouve beaucoup de grands noms, de gens qu'on pourrait dire être des grands noms aujourd'hui.
Des pionniers, un peu.
Et c'est ça, ouais.
Et puis effectivement, je me rappelle que Bruno Feduti il traduisait beaucoup de jeux à l'époque sur son site, notamment... Je me rappelle que Meuterer et Ferreter, donc les deux jeux qui ont inspiré Citadel, c'était Bruno Feduti qui les avait traduits aussi. Je crois que c'est la seule traduction encore existante. du coup, on revient sur la fiche signalétique. Donc, c'est un jeu qui dure 60 à 120 minutes. Alors, c'est en gros 1 à 2 heures, mais je pense que ça dépend surtout du nombre de joueurs, pour le coup. Mm-hmm. Il est annoncé à partir de 12 ans.
Et il est illustré par Franz Wovinkel, un habitué des jeux allemands. On va dire ça comme ça.
Et donc, il y a eu une première édition en France chez Tilsit en 2004.
Et puis, le jeu a été repris par Philosophia en 2009, suite au triste décès de Tilsit.
C'est ça. Alors, il faut savoir qu'après, il y a eu une édition Deluxe qui était sortie chez Istari, qui est sortie en 2013.
Pour la version française, effectivement.
Donc, qui valait un petit peu plus cher. Hein. C'était quelque chose comme 90 euros.
Oui, je sais plus effectivement à l'époque, mais bon, c'était pas donné, surtout pour l'époque. Hein. Aujourd'hui, on est un peu habitué à ce tarif. Mais c'était effectivement une édition qui avait le mérite d'avoir du matériel luxueux avec des pièces en métal en particulier, des barils ou des caisses en bois pour représenter les ressources, et puis des vraies illustrations sur les bâtiments.
Ça, c'est le luxe, hein. On a des illustrations sur nos bâtiments. Hein.
Et une magnifique faute d'accord sur la couverture.
Alors, est-ce que tu te souviens de cette faute?
Oui, alors c'était extension incluse, donc qui entend bien qu'il y en a plusieurs, hein, mais il n'y avait pas de S à extension.
Voilà, donc bien sur la couverture en plus, comme ça on peut bien s'en souvenir.
Voilà, c'est ça, avec une espèce de dorure à chaud, je sais pas quoi, magnifique.
Et donc, on a eu une dernière édition là qui vient de sortir à l'heure où on enregistre ce podcast, qui est sorti il y a quelques mois, donc en 2018.
À nouveau chez Aléa.
Voilà, de nouveau chez Aléa, mais en version française, quoi.
Avec du coup des graphismes revus, mais toujours Franz Wowinkel aux illustrations.
À noter d'ailleurs que pour la version Deluxe, du coup, c'était.
C'était Harald Liske. Pour continuer sur le jeu et tout ce qui est un peu autour, il y a eu une extension qui est parue en 2004, qui s'appelait sobrement Nouveau Bâtiment.
Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je me
On
demande.
se le demande, hein. Eh bien, il y avait des nouveaux bâtiments.
Wow,
Il y avait des
incroyable.
forêts aussi.
Des forêts, ouais. Qui remplacent un peu les carrières, c'est ça?
Bah écoute, je sais pas, j'y ai jamais joué.
Je sais plus. Moi, j'ai juste regardé sur le net, hein. J'y ai pas joué non plus.
Ouais. Et une deuxième extension, parue en 2009, qui s'appelle Les Nobles.
Et on n'y a pas joué non plus.
Non plus.
Ah,
Et
mettons-le.
devine ce qu'il y avait dedans?
Il y avait des paysans.
Ah, dommage.
Non.
Il y avait des nobles qui ont remplacé les colons et qui visiblement permettaient de donner des effets différents aux bâtiments existants. Voilà, mais j'en sais pas plus.
D'accord, qui change les effets des bâtiments, donc.
C'est ce que j'ai cru comprendre.
Ok. Intéressant. Donc, on remarque qu'en fait, les deux sont basés sur le fait de changer un peu les bâtiments.
Oui,
On en reparlera peut-être plus tard, mais c'est
effectivement,
intéressant de le
ouais.
noter tout de suite, quoi.
Le noyau du jeu est difficile à modifier quand même, hein.
Donc du coup là on a fini la partie un peu embêtante qui était la fiche signalétique. Donc maintenant on va rentrer un petit peu plus dans la présentation du jeu parce que peut-être qu'il y a quand même 2-3 personnes qui n'ont jamais joué à Puerto Rico, qui ne connaissent même pas.
Et puis, disons que pour illustrer nos propos à venir, je pense qu'il faut qu'on passe par là.
Donc le principe à Puerto Rico, c'est qu'on va en gros coloniser l'île de Puerto Rico en y plaçant des plantations, en construisant des bâtiments, tout ça, en amenant des colons pour venir nous aider dans notre tâche.
On amène la civilisation, on peut le dire.
Voilà, c'est ça. On amène la civilisation aux grands Européens que nous sommes. Et bah, le but du jeu, bon, alors là, c'est vraiment pas original, c'est d'avoir le plus de points de victoire, comme dans 80% des jeux, quoi. Et donc, ce qui va être très intéressant dans Puerto Rico, c'est que vous allez avoir cette mécanique de rôle. En fait, il y a des rôles au centre de la table, et à chaque tour de jeu, chacun à son tour, on prend un rôle, et en fait, on va déclencher une sorte de phase, en fait. C'est-à-dire que si je prends par exemple le rôle du paysan, je déclenche la phase de paysan, et du coup, c'est là la petite astuce, tout le monde va faire l'action paysan si je le prends.
En commençant par le joueur actif.
En commençant par le joueur, voilà, qui vient de prendre la tuile d'action. Le joueur qui vient de sélectionner ce rôle aura au passage un petit privilège, un petit bonus par rapport à cette action. Donc du coup, on va chacun à son tour prendre un rôle et donc du coup déclencher la phase pour tout le monde. Et une fois que tout le monde l'a fait une fois, les rôles qui restent au centre de la table, parce qu'il y a toujours un tout petit, il y a toujours 3 rôles de plus que le nombre de joueurs en fait. Les rôles qui restent au centre de la table, on met une pièce dessus parce que la prochaine fois que quelqu'un le prendra, il recevra une pièce quoi. Et on remet tous les rôles au centre de la table et on commence un nouveau tour en changeant le premier joueur. Donc grosso modo, il va falloir faire très attention à ce que les adversaires font, puisque quand vous prenez un rôle, vous déclenchez un pouvoir pour tout le monde. Donc du coup, bah voilà, faut faire gaffe à pas aider son voisin en faisant une action qui l'avantage de trop, quoi.
Alors pour décrire les rôles rapidement, hein, il y en a donc 7, on l'a dit. Il y a le rôle du paysan qui permet de prendre une nouvelle plantation. Il y a le rôle du bâtisseur qui permet de construire des bâtiments en les payant avec de l'argent. Donc d'ailleurs c'est la seule chose, hein, dans le jeu qu'on achète avec de l'argent. Il y a l'action du producteur qui permet de produire des ressources. L'action du capitaine qui permet de les expédier. Et là c'est une façon de marquer des points de victoire. C'est-à-dire que quand on expédie nos ressources, on va gagner des points de victoire. le marchand qui permet de vendre les ressources, donc c'est une autre possibilité pour utiliser ces ressources, c'est de les vendre pour gagner de l'argent.
Pour gagner de l'argent qui sert pour les bâtiments.
Et enfin le maire qui permet d'amener de nouveaux colons sur l'île de Puerto Rico.
Donc colons qui servent dans les bâtiments et dans les plantations, grosso modo, qu'elles ne peuvent pas être activées si vous n'avez pas de colons dedans, quoi.
Voilà.
Donc grosso modo, au niveau des éléments de jeu, on a donc ces plantations qui permettent de produire des ressources, à condition qu'il y ait des colons dedans, et les bâtiments qui vont avoir en fait divers pouvoirs, capacités spéciales, etc. Pareil, tant qu'il y a des colons dedans, quoi. Mais il est à noter quand même que les bâtiments rapportent aussi des points de victoire. Il n'y a pas que l'expédition de ressources qui permet de rapporter des points de victoire.
Et fort heureusement.
Voilà, on y reviendra aussi là-dessus tout à l'heure.
Du coup, maintenant que tout ça est dit, on peut se demander pourquoi ce jeu est si important pour le monde ludique, en tout cas à notre sens.
Bah déjà, ce qu'on peut déjà constater un peu factuellement, c'est que ça a été le top 1 sur Board Game Geek, donc le plus gros site international de jeux de société. Il est resté top 1 donc pendant des années, jusqu'à 2008 seulement, où il s'est fait dépasser par Agricola. Et même encore aujourd'hui, il est encore au moins dans le top 50, même si aujourd'hui ça commence à se bousculer un peu plus vite. Mais voilà, ça a été pendant très longtemps un jeu majeur sur Board Game Geek, en tout cas, qui est un site quand même très très spécialisé, quoi.
Je crois qu'il est encore à peu près dans les 18e, quelque chose comme ça. Du côté de la France, c'est un jeu qui a trusté le classement Trick Track pendant des années. Il a été vraiment au top. Aujourd'hui, il est encore 12e quand même. Et puis c'est aussi un jeu qui a reçu pas mal de prix.
Effectivement, alors il a eu pas mal de prix, mais il a jamais eu le Spiel des Jahres, qui est un peu la consécration pour le monde du jeu de société, donc on va dire l'espèce de prix international de jeu de l'année, quoi.
Même si c'est un prix allemand, mais
ouais, et c'est un jeu allemand.
Et c'est un jeu allemand quand même, effectivement.
Néanmoins, en Allemagne, il a reçu en 2002 donc le Deutscher Spielepreis pour être le meilleur family adult game, donc le meilleur jeu pour la famille et pour les adultes. Je sais même pas ce que ça veut rien dire, family adult. Mais bref, il a reçu ce prix en tout cas.
Je crois que l'autre prix, c'est un prix enfant en fait.
Ouais, voilà. Bon, en gros, c'est sûrement un jeu pour adultes, quoi.
Il a également reçu en 2002 le Japan Board Game Prize Best Advanced Games.
Il a reçu aussi en 2003 le International Gamers Awards dans la catégorie stratégie.
Et on peut noter qu'il a été nommé à l'As d'Or en 2006 pour la France. Et que même s'il n'a pas eu le Spiel des Jahres, il a été nommé quand même en 2002.
Sinon, on a parlé de Trick Track tout à l'heure, et on peut noter aussi qu'il avait été nominé au Trick Track d'Or de 2002, et il a remporté la Trick Track Cup 2009. Alors, c'est pas exactement la même chose, en fait, la Trick Track d'Or, c'est la rédaction, c'est ça qui...
De Trick Track, à cette époque, en tout cas, c'était la rédaction, et sûrement pas mal de gens quand même qui gravitent autour, parce qu'il y avait vraiment eu un gros phénomène d'effervescence en 2002 à la sortie de ce jeu. Il y avait vraiment un engouement sur tous les blogs. Alors, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là.
Effectivement,
mais, ouais. Tous les blogs français parlaient de ce jeu.
Non, mais même sur les forums et tout, je pense qu'il y a vraiment eu un engouement, quoi. Et pour le coup, la Trick Track Cup en 2009, là, c'est autre chose parce que c'est à l'applaudimètre, en fait. C'est les utilisateurs qui votent. Bon, c'est un système comme dans les tournois où les jeux s'affrontent un par un et puis à la fin, ils se font éliminer au fur et à mesure et il y en a un qui gagne, quoi. Donc, c'est pas hyper sérieux comme...
Non, en fait, c'est devenu moins sérieux, mais ça l'était un peu plus à l'époque.
Donc, en 2009,
oui. Oui, c'était... aujourd'hui, c'est vraiment devenu potache, et les auteurs, ils vont de leur corps et de leur intellect pour gagner. Mais c'était moins le cas à l'époque.
N'est-ce pas, Bruno Catala? Mais c'est vrai qu'aussi, il me semble bien que c'était la toute première, en fait, Trick Track Cup.
C'est probable. En tout cas, avec tout ça, je pense que on peut affirmer que c'est un jeu qui a marqué son époque et au vu des classements actuels, je pense qu'on peut dire que c'est un jeu qui est toujours marquant.
Effectivement, puis même outre cela, je pense qu'on peut le considérer nous-mêmes en tant que joueurs. Moi, je constate souvent que quand on parle de jeux de gestion, tout le monde connaît Puerto Rico, tout le monde a déjà... tout le monde le citera en tout cas comme grosse, grosse référence de ce style de jeu. Mais on y reviendra après, ça aussi. Ça fait beaucoup de choses en suspens.
Mais écoute, du coup, je pense que c'est le moment.
On attaque le dur.
Ouais, passons à l'analyse du jeu.
Parce que, effectivement, donc du coup, on peut constater avec des faits que ce jeu a effectivement marqué peut-être toute une génération de joueurs, quoi. Mais on peut se demander aussi, bah, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment des mécaniques que Puerto Rico a introduit? Qu'est-ce qui fait qu'à cette époque-là, il a tant marché voilà, c'est le genre de questions qu'on va se poser maintenant.
Et pour ça, on a plusieurs approches. On va déjà essayer de regarder quelles sont les ascendances de Puerto Rico et quelles sont les descendances. Donc voir quelles sont ses inspirations finalement et qu'est-ce qui l'a inspiré par la suite. En termes de mécanique déjà.
Parce qu'effectivement, Puerto Rico, a priori, nous en tout cas, on pense qu'il a introduit ou du moins popularisé beaucoup de mécaniques qui sont aujourd'hui très très utilisées dans le milieu du jeu de société. Donc la première, ça serait la mécanique que nous on appelle en France le jeu de gestion. Alors ça va un petit peu tout et rien dire, jeu de gestion, mais justement on peut essayer de décortiquer ça. Faut savoir que c'est un terme très francophone pour le coup, puisque les Américains, eux, ils diront plutôt Eurogame, qui ne veut encore moins rien, moins dire quelque chose au final.
Ou alors ils mettront ça dans le paquet des jeux de stratégie.
Ouais, voilà, ça veut rien dire quoi. Et du coup, pour le coup, voilà, jeu de gestion, il faudrait essayer de définir rapidement ce que c'est. Moi, perso, j'ai tendance à dire que c'est à partir du moment où t'as un développement au fur et à mesure de ta partie et que tu vas croître, tu vas installer une espèce de petit moteur comme ça qui va te faire avancer dans le jeu. Tu vas avoir par exemple de plus en plus de bâtiments qui t'offrent des effets, tu vas produire de plus en plus des ressources. Voilà, ça tourne souvent autour de choses avec des ressources et des bâtiments.
J'aurais dit effectivement des ressources au sens où ça peut être des ressources matérielles ou ça peut être de la ressource humaine en fait.
C'est ça. D'ailleurs, on parle souvent de jeux cubes en bois. C'est pas pour rien, puisqu'en général, les ressources sont matérialisées par des cubes en
c'est
bois.
Ça.
Et donc, du coup, c'est plus traditionnel qu'autre chose. Hein. En soi, ça ne définit pas un jeu de gestion, mais c'est vrai qu'on tombe souvent sur des jeux de gestion avec des ressources matérialisées par des cubes en bois, des bâtiments que vous construisez avec ces ressources, blablabla.
Alors du coup, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu de gestion avant Puerto Rico?
Alors ben, justement, c'est la question. C'est, est-ce qu'il y avait vraiment des jeux de gestion avant Puerto Rico? Ou est-ce qu'il a été le premier? Alors on parle souvent d'ailleurs de Puerto Rico comme le premier jeu de gestion.
Ouais, mais on parle quand même de les colons de Catane.
Alors effectivement, pour le coup, avant il y avait, on peut se douter que ça a été probablement une inspiration forte pour Puerto Rico, les colons de Catane, parce qu'il y a aussi ce système de ressources, de bâtiments qu'on construit à l'aide des ressources, etc. Néanmoins, les colons de Catane, c'est pas un jeu qui utilise uniquement des mécaniques de jeu de gestion. D'ailleurs, ça l'utilise plutôt minoritairement. Et ça utilise plutôt majoritairement des mécaniques de négociation.
C'est vrai que la négociation est assez présente dans les colons de Catane. Et c'est justement un de ces mécanismes qui fait que je n'aime pas trop les colons de Catane.
Non, moi non plus. Je ferais peut-être une chronique un jour sur les jeux de négoce, mais il y a beaucoup de problèmes avec les jeux de négoce en général. Ouais, du coup, les colons de Catane, c'est sorti en 95. Il faut savoir qu'en fait, à l'époque, c'est ce qui a peut-être lancé le premier boom des jeux de société modernes.
C'est vrai.
Et pour le coup, en fait, si les colons de Catane a réussi à amener ces mécaniques un peu nouvelles de jeux de gestion ou même de jeux de société moderne en général dans du grand public, dans des grandes surfaces, parce qu'en fait, à l'époque, on pouvait le trouver dans des grandes surfaces.
C'est vrai.
Puerto Rico, lui, ça a été plus celui qui a donné ses lettres de noblesse aux jeux de gestion et qui, du coup, on va dire, a entériné ce qui allait devenir les jeux de gestion pour les années à venir, quoi.
Les colons de Catane, c'est vraiment un jalon, c'est un marqueur quand même. Aujourd'hui, quand on parle de jeux de société moderne, on place quand même souvent les colons de Catane comme un jalon.
C'est ça, ça a été effectivement un des tout premiers à populariser ça, quoi. Mais après, ça n'empêche pas que maintenant, aujourd'hui, avec le recul, on peut pas. Il y a peu de gens, je pense, qui définiront les colons de Catane comme un jeu de gestion, en fait. Donc, le seul aspect gestion qu'il y a, c'est effectivement ses ressources et ses bâtiments, mais t'as pas vraiment le sentiment de faire des choix au niveau de tes ressources pour prioriser un bâtiment plutôt qu'un autre. Tes bâtiments te donnent pas des pouvoirs ou quoi que ce soit. En fait, tout se joue dans la phase de négoce, quoi. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est pas tant un jeu de gestion que ça, quoi. C'est un jeu important, mais c'est pas un jeu de gestion, quoi. Enfin, c'est pas très important en termes de jeu de gestion.
Très bien, admettons. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre?
Alors moi, ce que je noterais d'autre, ça serait un jeu qui s'appelle Ambition. Donc c'est un jeu qui est sorti qui est encore plus vieux puisqu'il date de 87 cette fois. Et cette fois-ci, c'est vraiment un jeu de gestion, je pense. Au sens plus, mais cette fois-ci c'était plus au sens jeu vidéo du terme. Jeu vidéo de gestion, c'est-à-dire que là tu vas vraiment gérer une entreprise. La thématique, c'est que tu joues une entreprise qui vend du chocolat, quoi. Ouais. Qui vend donc tu vas produire tes barres de chocolat, machin. Et vraiment, tu gères ton entreprise. Donc tu vas embaucher des gens, tu vas embaucher des mecs dans la com, tu vas embaucher des mecs qui vont te produire ton chocolat. Et en fait, ça va plus se baser sur des mécaniques d'enchères pour réussir à acheter ton chocolat pas cher et à le revendre cher, plutôt que sur le fait d'avoir différentes ressources ou des bâtiments que tu construis, quoi. Là, en fait, le seul truc que tu construis, c'est des employés. Enfin, tu vas recruter des employés, quoi. Tu payes de l'argent.
Mais on parlait bien de ressources humaines, ouais. Humaines, ouais, éventuellement.
Effectivement, là, sur le coup, là, t'avais raison. Mais du coup, Ambition, je le vois plus comme un jeu de comptable, tu vois. Genre, tu dois gérer ton argent et t'as qu'une vraie ressource que tu gères, c'est ton argent. Mm-hmm. Pour maximiser, en fait, ton profit. Ouais, voilà.
Ok.
T'es pas dans des choix stratégiques, des choses comme ça, quoi. T'es plus dans. Ouais, c'est plus un jeu d'enchères, au final. Donc, si on reprend l'exemple avec les colons de Catane, bah, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi des prémices du jeu de
gestion. Il y a des choses, mais c'est pas le cœur du jeu.
Exactement.
Alors que, effectivement, dans Puerto Rico, je pense qu'on peut affirmer que c'est vraiment le cœur du jeu. On a vraiment ces ressources qu'on doit produire pour les exporter, ou la deuxième ressource qui, elle, serait l'argent, du coup. Qu'on doit aussi faire pousser sur des arbres, je ne sais pas, qu'on doit effectivement acquérir pour acheter des bâtiments qui rapportent des points.
Et on a même une troisième ressource, c'est les colons.
Tout à fait, oui, c'est vrai, tu as raison.
Donc ouais, là t'as vraiment plusieurs aspects, et puis t'as plusieurs stratégies puisque t'as plusieurs bâtiments différents que tu peux construire, quoi. Rapidement, je voulais aussi parler de Morganland, qui est pas non plus trop un jeu de gestion, mais il y avait aussi des mécaniques où alors là c'est l'ancêtre de la pose d'ouvriers, pour le coup. Mmh. Donc tu poses des ouvriers, tu vas aussi acquérir des ressources qui sont en fait des monnaies, en fait des différentes, oui, monnaies de couleurs différentes qui vont te permettre d'acheter des objets magiques, en fait. Ça se passe dans une thématique des mille et une nuits, donc tu vas acheter des lampes magiques, des trucs comme ça, des anneaux magiques.
Très bien.
Et du coup tu vas débloquer des pouvoirs, donc en fait quelque part, les monnaies que t'achètes, c'est des espèces de ressources. Et quelque part, les objets magiques, c'est en quelque sorte des bâtiments, enfin, tu vois, des nouveaux pouvoirs que tu débloques au fur et à mesure.
Je comprends le parallèle que tu fais.
T'as, dans une certaine mesure, des prémices aussi de jeu de gestion là-dedans, quoi. Mais lui, il est encore plus génial parce qu'il a inventé la pose d'ouvrier, donc c'est plus.
On en reparlera peut-être une autre fois.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus dans ce domaine-là qu'il a excellé que dans le domaine du jeu de gestion, parce qu'en soi, c'est pas très très fort en termes de gestion, quoi, à mon sens, hein, en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour le jeu de gestion. Mais du coup, deuxième mécanique que Puerto Rico a pu inspirer,
et ben je pense qu'on peut parler du tableau building, excusez mon anglais,
alors qu'on pourrait traduire
construction de tableau. Donc avec le tableau building, on parle des bâtiments qu'on pose en Puerto Rico et qui vont nous amener des pouvoirs ou des effets, comme on veut, qui vont nous être propres. Donc c'est à dire que ce sont des bâtiments qu'on va acheter. Et on va être le seul à bénéficier d'un effet que nous produit ce bâtiment. Et qui va nous permettre, du coup, de nous orienter stratégiquement, par exemple. Bon, en tout cas, c'est le cas dans Puerto Rico.
Donc voilà, ouais, le tableau building, c'est genre, en fait, on se construit un panel d'effets qu'on a que pour nous, quoi.
Et ça, si on regarde en arrière, eh bien, toi comme moi, on n'a rien trouvé de,
ouais, vraiment,
de pertinent. Ouais. Du coup, on s'est penché sur BGG. On s'est dit, bah, il y a peut-être quelqu'un qui va nous donner une réponse.
Donc Board Game Geek, hein.
Voilà, donc effectivement le site Board Game Geek. Donc cette catégorie, enfin ce type de mécanique, le tableau building, existe, hein, dans la base de données de BGG. Et le seul ascendant qu'on peut trouver à Puerto Rico, c'est Citadel.
Ouais, exactement.
Et là, je pense que toi comme moi, on peut être assez d'accord qu'on est quand même assez loin dans Citadel du tableau building tel qu'on peut le décrire là. Parce que les bâtiments dans Citadel vont surtout nous servir, bah, à finir la partie, hein, donc donner des points, mais pas vraiment à se développer.
Voilà, ouais, c'est vraiment marginal, en fait. Il y a genre qu'un type de bâtiment qui t'offre des pouvoirs.
C'est ça, c'est les violets, c'est ça.
Les violets, ouais, voilà, qui ont des capacités spéciales. Et éventuellement, tu peux considérer les couleurs des bâtiments, soit parce que ça te fait un bonus à la fin, soit parce que ça te fait des bonus avec certains personnages, quoi. Mais
c'est ça.
De là à dire que c'est une construction de tableau, je sais pas quoi. On peut dire que c'est, ouais, les prémices.
C'est des prémices. Disons que ça permet effectivement de se dire, je vais me concentrer sur telle couleur, parce que du coup, je vais pouvoir avoir des effets plus forts, voilà, au fil de la partie. Mais bon.
D'ailleurs, c'est vachement intéressant qu'on ait parlé de Citadel, parce que pour le coup, outre le tableau building, je pense que Citadel a beaucoup plus inspiré Puerto Rico sur une autre mécanique qui est celle des rôles, en fait.
Là, effectivement, en tout cas, on retrouve quelque chose qui nous parle tout de suite plus dans Puerto Rico. On a bien cité les rôles qu'on choisit, et dans Citadel, on sélectionne bien des rôles. Pour autant, c'est pas vraiment des phases qu'on déclenche dans Citadel, c'est vraiment un effet qu'on va déclencher pour soi.
C'est ça, ouais. Citadel, c'était juste en fait des bonus qu'on prenait. Là où Puerto Rico, c'est pas la même chose. On a effectivement toujours cette histoire de bonus, c'est peut-être d'ailleurs juste ça que Citadel a inspiré. Mais on déclenche quand même une phase pour tout le monde, et c'est en ça que je pense que Puerto Rico a une mécanique très très originale là-dessus, quoi. Cette mécanique de rôle, franchement, on la voit pas dans beaucoup de jeux, quoi.
Oui. Et effectivement, quand on déclenche cette phase, on la déclenche pour tout le monde, ce qui va jouer aussi dans l'interaction du jeu.
Ouais. Ce qui fait qu'il est pas si froid que ça pour un jeu de gestion, quoi.
Puis alors après, on peut citer une autre inspiration peut-être. On a parlé de toujours sur le sujet des rôles. Les rôles qui n'ont pas été sélectionnés à un tour se voient donc attribuer une pièce pour les bonifier pour le tour suivant. Et ça, ça fait tout de suite penser à Small World. Alors Small World, vous allez dire, c'est vachement après. Mais sauf que Small World, en fait, c'est Vinci. C'est une refonte de Vinci. Donc les deux jeux étant de Philippe Kayert. Et autant Small World est sorti en 2009, mais Vinci, lui, est sorti en 1999.
D'ailleurs, cette mécanique-là de Small World, de Vinci, du coup, datait même d'un autre jeu qui était Show Manager, ouais, de Dirk Hahn, qui est, je pense, la première occurrence de cette mécanique de, j'appelle ça une mécanique de file, comme on retrouve, ouais, aujourd'hui dans Century, dans des trucs comme ça, où tu as une file où le premier est gratuit, le deuxième coûte 1, le troisième coûte 2, etc. Ouais. Et quand t'achètes, en fait, tu déposes tes pièces sur le reste de la file, ce qui fait que les autres pourront acquérir ces pièces plus tard quand ils prendront la carte, quoi. Je pense que c'est une mécanique qui parle à beaucoup de gens, donc je j'étaye pas plus que ça, mais...
Mais c'est en fait une mécanique de rééquilibrage quelque part. Bon, je pense que c'est effectivement pas quelque chose de majeur dans Puerto Rico, mais on peut se dire qu'il est peut-être allé chercher, enfin que Andreas Seyfarth est allé chercher des petites choses comme ça à gauche, à droite, ouais, pour peut-être régler son jeu. Donc typiquement ça, ou le bonus sur les rôles peut-être dans Citadel.
Un dernier truc aussi qu'on peut constater, c'est qu'il fait partie d'une mouvance, en tout cas qui avait lieu à l'époque, ce que les Américains appellent aujourd'hui les Eurogames.
Ouais.
Ça veut un peu rien dire, en gros les jeux à l'européenne, quoi, si on devrait le traduire. Ça serait un peu l'équivalent de ce que nous on appelle les jeux à l'allemande, c'est-à-dire des jeux qui sont beaucoup plus axés sur la mécanique, et donc moins sur la thématique.
Oui, des jeux plutôt froids finalement.
Ouais, c'est ça. Là où les Américains ont des jeux plus directs, avec des pampans boum boum, on se tire dessus.
C'est ça, à coup de dés, qu'on se balance.
Voilà. Avec un thème présent aussi. Les jeux à l'allemande seraient des jeux plus froids, plus indirects notamment. Et donc c'est pour ça qu'on les retrouve plutôt dans des mécaniques type jeu de gestion, jeu de pose d'ouvrier, jeu de majorité. D'ailleurs, le plus grand représentant, on va dire, de l'Eurogame de l'époque, c'était El Grande. Donc, qui est sorti en 95 et qui avait le Spiel de 96, le Spiel d'Asiarus. Et du coup, je pense que vraiment Puerto Rico fait partie de cette mouvance. Il a rien inventé dedans, hein, mais juste on peut constater qu'il fait partie de cette mouvance. Il y avait plein d'autres jeux à l'époque, notamment les autres jeux de Wolfgang Kramer, hein, la personne qui a fait, ouais, El Grande, du coup. Donc les Princes de Florence, des trucs comme ça. Donc je pense qu'on peut remarquer qu'il fait partie de cette mouvance. Il a pas spécialement popularisé, mais on peut simplement le constater, quoi.
Moi je pense que d'ailleurs il faisait partie de cette mouvance parce qu'il est dans ce contexte, mais je trouve justement qu'il s'en écarte, et c'est peut-être ça aussi qui a fait son succès. C'est-à-dire qu'il est peut-être paru comme un jeu différent à l'époque. Et donc on va se poser maintenant la question de savoir si Puerto Rico est un jeu thématique ou pas.
Donc à quel point il s'inscrit vraiment du coup dans l'Eurogame, quoi.
Alors le premier constat qu'on peut faire, hein, et là ça va vraiment être un constat, on peut prendre les règles du jeu et se dire voilà, alors ça parle de quoi Puerto Rico? Et là, les règles du jeu nous disent chercheur d'or, capitaine, maire, marchand, paysan, producteur ou bâtisseur. Quel rôle choisirez-vous dans le nouveau monde? Posséderez-vous le plus de plantations? Serez-vous propriétaire des bâtiments les plus payants? Votre objectif est le suivant, obtenir d'innombrables richesses et le respect de vos confrères. Le joueur ayant le plus de points de victoire aura atteint cet objectif. Alors, je sais pas, tu as senti le thème, toi?
Pas vraiment, mais... D'ailleurs, c'est drôle qu'ils mettent dans l'introduction directement de parler des points de victoire, quoi. Genre, pour t'immerger dans le thème, on te parle de points de victoire.
Tu vois ça. Et on te liste les rôles.
On te liste les rôles, ouais.
Voilà. Alors, c'est vrai qu'à la lecture des règles comme ça, bon, on peut se dire que le thème, c'est le néant. Aucune tentative d'explication de ce thème dans les règles. Pour autant, on comprend bien quand même quand on joue à Puerto Rico qu'on est dans un thème de colonisation.
Effectivement, oui.
Où on va importer des colons sur le nouveau continent, développer cette île avec en y installant des plantations, des bâtiments, produire des ressources qu'on va exporter vers le nouveau, enfin, qu'on va exporter vers l'ancien continent, enfin, vers le vieux continent, pour gagner du prestige. Donc, clairement, un thème de colonisation qui nous échappe complètement à la lecture des règles.
Peut-être qu'ils avaient honte.
Et peut-être qu'ils avaient honte parce qu'il y a, alors il y a cette histoire de colons, qui est peut-être un peu bizarre.
On en parle.
Parlons-en. Alors je sais pas, il y a eu, je sais pas s'il y a vraiment eu polémique à l'époque, mais aujourd'hui en tout cas c'est un sujet qui est abordé de temps en temps. Ces colons là, ils sont, c'est des petits pions marrons, et du coup, et puis on les envoie dans des plantations quand même.
Ouais.
pas que quand même, on les envoie aussi dans des bâtiments, mais on les envoie dans des plantations, et du coup ça fait quand même beaucoup penser à des esclaves.
Mmh. Bah ça fait même carrément penser au commerce triangulaire. Comme tu dis, en fait, on vient moderniser la tête à l'Amérique du Sud, quoi. Et du coup, on va choper des esclaves en Afrique, et puis on va les foutre dans les champs, puis on récupère les ressources et on les envoie au Nouveau Monde, quoi. On les exporte dans les bateaux, quoi. Enfin, moi, ça me fait clairement penser à ça direct, quoi. On dirait qu'ils le cachent, mais pour le coup, ça semble assez clair, quoi.
Alors il y a effectivement quand on lit, bon bah voilà, c'est bien le terme de colon hein, qui est utilisé, hein, donc on peut quand même admettre que
qui se planque, voilà, qui se planque derrière un autre thème.
Ouais, mais en tout cas la réalité historique n'est pas des colons dans les plantations. Hein, on est d'accord. Ou alors c'est des contremaîtres.
Ouais, peut-être. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça en fait un thème presque tristement réaliste pour un jeu à l'allemande, en fait.
Oui, c'est là qu'il est intéressant, en fait, de savoir que Andreas Seyfarth, selon ses propres propos, affirme qu'il a créé ce jeu à partir du thème.
C'est ça, et non pas à partir de la mécanique, ce qui est, moi, je trouve assez surprenant au final quand on voit le résultat. Quand on voit le résultat, en fait, parce que c'est quand même considéré comme un jeu. On l'a dit, un pilier du jeu de gestion, jeu à l'allemande, en fait, des genres, des styles de jeu qui nécessitent quand même des gros efforts mécaniques, pardon, ouais, des gros efforts mécaniques. Et pour le coup, lui, en fait, il l'a inventé à partir du thème. Alors, je sais pas à quel moment il s'est dit, ouais, trop bien, je vais parler du commerce triangulaire, on va fêter des esclaves et tout, mais. Enfin, ouais, voilà, du coup, ça me semble vachement bizarre, en fait, qu'il soit parti du thème qui est pas hyper sexy, pour le coup, et assez froid, je trouve.
Alors, j'ai peut-être une théorie sur le sujet.
Vas-y.
Pour moi, il y a thème et thème. Alors, il y a le thème, effectivement, oula, tel qu'on l'entend au sens de la méritrash, où voilà, on se sent dans la peau d'un personnage, on va vivre une aventure, etc. Là, on n'est clairement pas là-dedans.
Donc, au sens immersion, tu veux dire.
Voilà, au sens immersif du thème. Ici, on n'est pas dans de l'immersion. Mais on a un thème qui est présent et qui est simulé dans le jeu. C'est-à-dire que, à mon sens, Andreas Seyfarth, alors, qui était contrôleur de gestion. Donc voilà, on va peut-être retrouver des fins de compte. Qui était contrôleur financier. Donc on va peut-être retrouver peut-être des choses plutôt là-dedans. À mon sens, il a pris ce thème qui est très général de la colonisation. La colonisation, c'est quoi? Effectivement, c'est on amène des gens du vieux continent vers le nouveau continent. On développe ce continent, donc effectivement, on exploite. Hein, je pense qu'on peut dire on exploite ce continent. Ouais, on exploite ce continent. On exploite aussi des hommes qui venaient d'Afrique. Voilà, et toutes les ressources repartent vers le nouveau continent. Et ça, je pense que voilà, si on considère le thème de la colonisation comme ça, bah on retrouve effectivement toutes les briques de Puerto Rico. Et
donc ce que tu veux dire, c'est que il a constaté cette mécanique, on va dire, dans la vraie vie.
C'est ça.
Et il s'est dit ah tiens, ça ferait bien une mécanique de jeu, quoi.
C'est
assez triste de dire ça, mais c'est effectivement peut-être le cas.
Exactement. Je pense qu'il a plutôt analysé un élément de la vraie vie plutôt que ce qu'on appelle nous le thème, qui est plutôt l'aspect immersif. Lui, il a pris le système en fait de ouais. la colonisation.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et du coup, il en a créé un jeu. Et je pense que ce qui fait, déjà, on voit effectivement que toutes les briques et les enchaînements d'actions collent tout à fait avec ça. Et il faut savoir que c'est le premier jeu à aborder le thème du colonialisme, hormis des jeux de wargame.
D'ailleurs, on peut rediriger aussi les auditeurs sur l'article de Chanouillette sur Ludovox qui avait parlé justement du colonialisme dans le jeu de société. Voilà, si vous voulez creuser un peu le sujet, on mettra le lien dans le billet.
Donc tout ça pour dire que, à mon sens, le thème est fort, mais si on l'entend au sens du système, au sens de la systémique en fait.
Ouais, c'est un petit peu comme par exemple Agricola, qui a un thème pas sexy, t'es pas immersif, mais en fait tout est logique si tu suis le système. Par exemple, des animaux, des plantations, des choses comme ça, tout est logique en fait.
Ça, à peu près, sauf que si t'as 4 animaux, tu n'as pas de petits.
Ouais, après, voilà, y a toujours des petits problèmes. Hein. Toujours au niveau du thème, du coup, on peut quand même se dire que c'est pas immersif non plus, dans la mesure où, effectivement, tu ne joues pas un rôle en particulier. En fait, il n'y a vraiment aucune explication immersive. Je veux dire, là tout à l'heure, tu as lu les règles, mais on peut même le constater, quoi. Je veux dire. Quel rôle tu joues ? Est-ce que t'es le gouverneur ? Ouais, mais non, pas vraiment, parce qu'il change à chaque tour. Ton rôle change à chaque tour. Un coup, t'es le paysan, un coup, t'es le maire. Enfin, c'est un peu chelou, tout ça.
Il faudrait que t'essayes de faire une partie en faisant tout le temps le maire.
Pour voir si tu le sens que t'es le maire ou pas. Après, ça me rappelle du coup une anecdote assez rigolote dans un article que j'ai lu où la personne se demandait quelle était la vraie thématique de Puerto Rico. Et surtout pourquoi en fait on avait tous le même plateau et au final on avait tous la ville de San Juan sur notre plateau et tout. Et en fait une de ses théories c'était que en fait on jouait tous une version alternative de Puerto Rico, donc dans genre des mondes alternatifs, et que c'était un peu la version qui fonctionnerait le mieux, qui serait la vraie version de Puerto Rico, quoi. C'est plutôt drôle et tordu. Bon, après je pense pas que
pour le coup ça marchera pas non plus, parce que du coup les colons ils arrivent, ils sont communs.
Oui, en plus, bon. Oui, non,
mais ça a le mérite d'être
drôle. C'est pour l'anecdote. Non, pour le coup, je pense qu'effectivement, on joue chacun un morceau de la ville ou quelque chose comme ça. Il y a pas. C'est plus une espèce de schéma, notre plateau, en fait, de schéma représentatif de nos bâtiments qu'on a dans la ville, quoi.
Exactement. De San Juan, je pense.
Moi, je pense pas que ce soit San Juan. Je pense qu'on est vraiment sur toute l'île de Puerto Rico, en fait, et que.
Non, mais c'est un débat qui nous oppose, mais je pense qu'on rentrera pas dans ce débat ce soir.
On a beaucoup discuté avant l'enregistrement là-dessus.
En tout cas, on n'a pas trouvé la réponse dans les règles, là non plus.
Non. Clairement, on n'aura rien de thématique dans les règles.
Si vous avez la preuve que, effectivement, nous sommes en train de développer la ville de San Juan, parce que j'en suis sûr.
Non, c'est faux.
Envoyez-moi cette preuve dans les commentaires.
Donc, du coup, on a dit que. Andreas Seyfarth a créé le jeu à partir du thème, mais que donc ça serait plutôt au niveau du système plutôt que de l'immersion, voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut peut-être dire ? On peut peut-être parler plus en détail de Andreas Seyfarth.
Eh ben, faisons-le.
Donc tu avais dit qu'il était contrôleur financier, c'est ça ?
Oui. Alors en tout cas, c'est ce qu'il déclare en 2005. Et il faut avouer que depuis à peu près ces eaux-là, il a un peu disparu. Alors on va quand même revenir sur les jeux qu'il a créés. L'un de ses tout premiers jeux, en tout cas on va parler des plus marquants, c'est Manhattan, qui est un jeu qui a eu le Spiel en 1994. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui va revoir le jour cette année, si j'ai bien tout suivi.
Donc nous sommes en 2018.
Merci pour cette petite précision. Donc en 2018, chez Acting Game, il me semble.
Avec des graphismes beaucoup plus jolis que l'édition de 94. En même temps, c'est pas dur.
C'était pas difficile. Les bâtiments, parce que dans Manhattan, il s'agit de construire des tours. des buildings auront toujours des couleurs qui ne correspondent pas à la vraie vie, mais voilà.
Mais là aussi, du coup, il avait dit qu'il s'était inspiré, qu'il était parti du thème, pour le coup, pour Manhattan. En fait, il était parti sur l'idée, ouais, youpi, on va construire des buildings.
Ouais.
C'est ce qui a donné une mécanique très intéressante, d'ailleurs, dans Manhattan, où on va construire des tours, on va essayer de prendre des majorités d'une manière ou d'une autre, etc. Je ne vais pas entrer en détail là-dessus. Mais au final, bah, quand on y joue, on constate que c'est quand même un jeu presque abstrait, quoi, en fait.
Ouais, on se sent pas vraiment dans la peau d'un entrepreneur new-yorkais.
Mais voilà, néanmoins, c'est assez fun de voir que Andreas Seyfarth, on dirait bien qu'il constate des systèmes dans la vraie vie et qu'il essaye après d'en faire des mécaniques de jeu et que parfois, bah, ça marche bien.
En tout cas, pour ces deux-là, ça a pas trop mal marché.
C'est ça.
Puisque c'est quand même un jeu, en tout cas, il le déclarait là aussi, je crois, en 2005, dans la même interview qu'on a lu. En 2005, c'était son jeu le plus vendu à travers le monde.
Voilà, plus que Puerto Rico, du coup.
Voilà.
Mais il faut dire qu'il a eu un spiel, donc...
Ça aide beaucoup, surtout en Allemagne.
Ouais, pour le coup, je suis pas sûr qu'à l'époque... on n'a pas les chiffres, on peut pas savoir si aujourd'hui Puerto Rico a dépassé Manhattan ou pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, entre un spiel et Puerto Rico, qui avait, on va dire, une reconnaissance, mais dans un milieu core gamer, je pense que clairement, en termes de vente, c'est pour ça que Manhattan
le dépassait
largement.
Mais ce serait intéressant de savoir ce qu'il en est aujourd'hui.
Il déclarait que ça dépassait largement,
oui,
en termes de vente.
Ouais. Donc il y a des chances que ça le soit toujours. Bon, j'ai tenté de le contacter via son compte BGG. Malheureusement, je pense qu'il est vous abonné absent. Donc ensuite, dans sa ludographie, on peut noter l'aventure postale ou de son titre allemand original Tourne und Taxis, qui est un jeu qu'il a créé avec sa femme, donc Karin Seyfarth, et qui lui aussi a eu le spiel en 2006. Ça fait comme deux spiels.
Ouais, deux spiels, mais pas Puerto Rico.
Eh, pas Puerto Rico.
Très intéressant, ça.
Est-ce que tu crois que c'est pour ça qu'il s'est retiré de la vie ludique? Et on n'a pas cité encore un jeu qui lui a été fortement inspiré de Puerto Rico, à tel point qu'il s'appelle San Juan.
Alors on peut même dire que c'est un spin-off de Puerto Rico, au final.
Je pense que c'est complètement un spin-off de Puerto Rico. Donc San Juan, qui est paru en 2004, à nouveau chez Alea. Puisqu'effectivement c'est clairement un spin-off de Puerto Rico, et en fait c'est Puerto Rico version carte.
C'est ça, donc peut-être avec plus un aspect combo de cartes que juste jeu de gestion, en fait, quoi.
En fait, on va retrouver le tableau building de Puerto Rico dans San Juan, qui va avoir un effet peut-être effectivement un petit peu plus combo. Autrement, on retrouve quand même un... Alors, c'est un feeling un peu différent, mais en fait, on retrouve quand même beaucoup de briques de Puerto Rico. La gestion des ressources et la construction des bâtiments en particulier, avec des bonus qui ressemblent beaucoup aux bonus des bâtiments de Puerto Rico.
Et surtout, moi, ce que je noterais quand même, c'est que cet aspect combo de cartes, j'en parlais dans une de mes analyses du Pionfesseur, du coup... effectivement, cet aspect combo de cartes, San Juan, c'est probablement le premier jeu à jouer autant sur de la combo de cartes, en fait, au sens où j'en parlais dans mon analyse. Donc c'est pour ça que je vais pas tout redétailler ici, mais n'hésitez pas à aller l'écouter, quoi. Donc ce qu'on peut constater, c'est que il y a pas vraiment trop d'autres jeux intéressants dans sa ludographie, intéressants au sens où ils ont eu vraiment de succès, en fait. Pour le coup, à part les trois qu'on vient de citer plus Puerto Rico. Les autres jeux sont soit un peu tombés dans l'oubli, la plupart parce qu'ils sont en général pas très bien, on peut le dire. Enfin, ils ont pas des notes de fou sur BGG et puis.
Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on peut constater.
Enfin, moi, j'ai un peu creusé.
Avoir testé.
Ça a l'air un peu chelou, quoi. C'est genre des espèces de variantes de Monopoly bizarres. Enfin, voilà, des espèces de jeux qu'on a l'impression de trouver dans le grand commerce, tellement ils sont pauvres en termes de mécanique, quoi.
Il y a un jeu qui s'appelle Zorro, par exemple.
Ouais, c'est pas l'air
qu'on sent vouloir s'adresser au grand public quand même, mais voilà, au moins dans son titre.
Du coup, c'est assez fascinant de voir que au final Andreas Seyfarth n'a pas fait tant de jeux que ça, que il a fait deux jeux qui ont eu un spiel et Puerto Rico qui n'a pas eu le spiel, mais qui est aujourd'hui peut-être mieux considéré par les gamers et qui ne sera pas oublié comme les deux autres, en tout cas, même si c'est dommage pour Manhattan parce que je le trouve quand même bien.
Bah, il sera pas oublié parce qu'il est déjà réédité cette année, donc ça, quoi, il a pas été oublié par tout le monde.
Peut-être qu'il aura une seconde vie, on ne sait pas. Mais du coup, voilà, assez intéressant de voir qu'il a fait très peu de jeux au final. Enfin, très peu de jeux en tout cas qui ont bien marché. C'est pas on va dire, c'est un auteur.
Il a fait globalement assez peu de jeux quand même. Hein.
Ouais, il a fait globalement assez peu de jeux, mais il a fait vraiment, du coup, très peu qu'on marchait. Là, aujourd'hui, ça fait 10 ans que, quasiment qu'il n'a pas fait de jeu.
Ouais.
C'est clairement pas un auteur. Pour quelqu'un qui a, on va dire, la trempe d'avoir créé Puerto Rico, bah, à côté de ça, c'est pas quelqu'un comme Bruno Catala ou Stefan Feld, ou enfin voilà, des grands auteurs qui sortent leurs jeux de société par an. Voilà, lui, il n'a pas cette. Peut-être c'est pas parce qu'il n'a pas le temps, je ne sais pas.
Il a pas cette célébrité, il n'a peut-être pas cette envie hein, de continuer à créer.
D'ailleurs, tu dis célébrité, mais il n'a pas cette célébrité, tout simplement. Tu prends n'importe qui. Si tu lui demandes c'est qui l'auteur de Puerto Rico, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le savent pas en fait.
Ouais, ça m'étonnerait pas effectivement.
Mais pourtant, qu'ils connaissent très très bien Puerto Rico, quoi.
Est-ce que tu crois que tu citerais Bruno Catala?
Oui, oui, si, je pense que ces gens-là ils connaissent Bruno Catala.
Pour Puerto Rico.
Ah non, non. Et du coup, je me demande si c'est vraiment un si bon game designer que ça en fait. Et c'est
pourquoi
ça, en fait, on
pourquoi
a presque l'impression qu'il a créé ces bons jeux un peu par hasard ou parce qu'il a eu la bonne idée au bon moment, quoi.
Ouais.
Et bah d'ailleurs, en fait, Puerto Rico, pour le coup, c'est un jeu qu'il admet avoir mis 15 ans à développer, quoi. Mmh. C'est pas. C'est quand même beaucoup, 15 ans,
ça,
quoi.
Ça fait pas mal, ouais. C'est clair que ça fait beaucoup.
Si tu compares avec les éditeurs d'aujourd'hui, en général, un auteur, il va mettre quoi, 3, 4 ans.
Il va mettre 2, 3 ans à développer.
Ouais, voilà. Mais non, mais d'ici à ce que son jeu. Alors après, lui, il a dit 15 ans pour de l'idée à l'édition, quoi. Mais. Déjà, de l'idée à l'édition, en général, un auteur, il y a quoi? Il y a, ouais, 4 ans avant que son jeu y sorte, quoi. Maxi, récemment, on a parlé de Innis, qui avait mis 7 ans avant de sortir, tout ça. Là, c'est quand même 15 ans, quoi. C'est pas le même niveau, quoi.
Ouais, c'est clair, ouais. On entend parfois, effectivement, des auteurs nous dire qu'ils ont développé leur jeu pendant beaucoup, beaucoup d'années, parce qu'ils le laissaient dans un tiroir, ils l'ont ressorti, etc., etc. Mais ça, il y a rarement aussi longtemps. Après, on était aussi à une époque différente. Hein. Il y avait peut-être aussi, bah, il y avait moins d'éditeurs. Il y avait voilà, donc c'était un milieu peut-être un peu moins en vogue qu'aujourd'hui.
Mais du coup, voilà, savoir ça plus le fait qu'il crée ses jeux à partir du thème. J'avais vu aussi dans l'interview qu'il expliquait que souvent, en fait, il faisait beaucoup évoluer ses jeux par beaucoup d'itérations. Il les faisait tester à d'autres auteurs, etc. Pour reprendre un peu les idées qu'il donnait pendant les tests, quoi, hein, tout simplement. Mais Donc du coup, à mon avis, Puerto Rico a mis énormément de temps à naître, tout simplement, parce que ouais, c'était une autre époque où le game design était peut-être encore un peu émergent, et finalement, heureusement qu'il a fait cet effort-là, quoi, et qu'il a réussi à pondre un jeu aussi formidable et aussi aussi influençant.
Avec une influence aussi forte, ouais. En tout cas, sur la production d'aujourd'hui.
Voilà, je me pose juste la question, du coup, de savoir si vraiment... Est-ce que aujourd'hui, enfin, je pense que non, mais est-ce qu'il aurait la trempe de recréer un autre jeu du même niveau que Puerto Rico, quoi? Ou est-ce que c'était juste, effectivement, bah, comme on le disait au tout début, une pépite d'or au milieu de production plutôt moyenne, quoi?
Ouais. Alors, maintenant, rep à ça, Andreas.
De quoi?
On t'attend. Je dirais pas ça, Andreas, on t'attend.
On t'attend, toi. Ça se trouve, ça fait 10 ans qu'il est sur un autre jeu et que dans 5 ans, on le verra sortir. Hein.
Ouais, peut-être, qui sait.
Ça serait fun.
Il avait tellement la tête dedans qu'il n'allait pas traîner sur PSG.
Ouais, exactement.
Alors, on a dit que le jeu avait une influence forte sur la production d'aujourd'hui. Alors, je te propose qu'on regarde un peu cette influence.
Effectivement, donc du coup, quels seraient, bah, par exemple, selon toi, les jeux qui ont été peut-être le plus inspirés par Puerto Rico que tu connaisses?
Alors, si je dois en citer un seul, c'est Race for the Galaxy. Et Race for the Galaxy, the best game ever of the universe.
Ah bon?
Mais complètement. Bon, ça sera un autre débat. Mais dans Race for the Galaxy, alors déjà, il y a une petite histoire avec Race for the Galaxy. Qui nous a été. Alors, je crois que tu étais à l'initiative du début de cette histoire dans une de tes chroniques.
Bah, c'était justement la chronique dont j'ai parlé tout à l'heure.
Avec Sanorwan, voilà. Par laquelle tu t'es fait rattraper par Altaripa et Rexu, enfin, ou en tout cas, pas forcément rattraper, mais où tu t'es.
Non, mais ils ont corrigé les bêtises que j'ai dit, hein, on peut le dire un peu.
Altaripa expliquait que les deux jeux. En fait, donc Race for the Galaxy et Sanorwan avaient été développés en parallèle, et Rexu nous rajoutait que qu'en fait il y a eu une sorte de travail de commande à la suite de Puerto Rico, enfin suite au succès de Puerto Rico. Et donc Tom Lehman a participé à cet appel. Et bah de cette participation, en gros, sont nés deux jeux, que sont donc Race for the Galaxy et San Juan. Donc sûrement d'une collaboration entre Seyfarth et Tom Lehman, à un moment où c'est pas peut-être du piquage d'idées, qui sait, mais je ne crois pas que ça se soit passé comme ça.
En tout cas, Rexu n'a pas pu me citer ses sources, donc c'est là que ça devient un peu nébuleux, malheureusement.
Oui. Non, on ne sait pas exactement. Voilà, donc apparemment, c'est des Américains proches de Lehman qui expliquent un peu comment ça s'est passé, mais évidemment, ça reste encore assez nébuleux. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, Tom Lehman avait proposé une variante deux joueurs pour Puerto Rico, qui est différente de la variante officielle.
D'accord, ok.
Donc comme quoi, il devait effectivement être un grand fan de jeu quand même pour aller pondre une variante. Donc effectivement, influence, alors à quel niveau? Dans Race for the Galaxy, on va totalement retrouver le tableau building dont on parlait. Et puis, dans Race for the Galaxy, on retrouve un système d'action qui est choisi par les joueurs, mais cette fois-ci c'est simultané, donc c'est là que ça change un peu. Mais effectivement, ces actions qui sont choisies, ces phases qui sont choisies, elles vont être enclenchées pour l'ensemble des joueurs, avec, je te donne en mille, un petit bonus pour celui qui l'a choisi.
Comme Puerto Rico.
Exactement. Et bien sûr, les cartes composent amènent des effets dont on va pouvoir bénéficier pour la suite de la partie, donc
du tableau building.
Exactement. Voilà. Et toi, est-ce que tu vois d'autres jeux comme ça dans cette veine-là?
Bah du coup, de cette mécanique-là en particulière a découlé pas mal de choses. En fait, la mécanique de rôle, je trouve que c'est une mécanique qui a pas été trop exploitée. Hormis Race for the Galaxy, il y a eu quelques exemples. Il y a eu Roll for the Galaxy.
Ouais, mais là,
ça compte pas.
Là, on triche un peu. Quoi.
Voilà, ça compte pas vraiment.
C'est toujours Tom Lehman. Ouais.
Sinon, il y a.
Il y a assez peu de jeux en fait qui utilisent ça. En tout cas, enfin, pas des jeux marquants ou avec le même rayonnement que Puerto Rico ou Race for the Galaxy. Parce que du coup, on n'en retrouve pas. Je suis assez persuadé qu'il y en a plein en fait.
Ouais. Si j'en ai un autre qui me vient, du coup, c'est La Gloire de Rome.
Ouais.
Qui pour le coup ressemble beaucoup à Race for the Galaxy aussi, puisque c'est aussi du tableau building, tu joues des rôles, etc. C'est une mécanique de rôle un peu twistée, un peu différente de Puerto Rico, mais tu gardes la mécanique de rôle qui représente des actions et que quand tu en joues un, potentiellement les autres peuvent faire aussi l'action, quoi.
Ouais.
Mais sinon, ouais, c'est vrai que cette mécanique de rôle au sens enclenchement de phase pour tout le monde, c'est plutôt rare, quoi.
Bah, j'ai repensé à Miutopia aussi, mais tu vois, on commence à tomber dans des jeux qui sont encore de moins en moins connus quand même.
Je vois pas ce que c'est.
Voilà, ok. C'est chez Rune Edition.
D'accord. Je m'y intéresserai.
Un jeu un petit peu à la croisée entre effectivement Puerto Rico et Agricola.
Ça a l'air vachement bien.
En plus léger.
Ça a l'air trop bien.
Donc voilà. Du côté des jeux de gestion, du coup.
Moi, pour moi, du côté des jeux de gestion, je pense qu'en fait Puerto Rico a inspiré à peu près tous les jeux de gestion qu'il y a eu après lui. C'est assez clair, quoi. Je veux dire. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est lui qui a été vraiment l'essence de ce qui est devenu le jeu de gestion après. Donc, pan, t'as des bâtiments qui ont des pouvoirs, t'as des ressources qui te permettent de faire des trucs,
de te développer, etc.
Voilà, point de victoire, cube en bois, tout ça, tout ça.
Ouais.
Néanmoins, je pense qu'en général, on va parler surtout de deux jeux qui, à l'époque, en fait, ont été vraiment très influencés par Puerto Rico. En fait, si on devrait citer, on va dire, les trois piliers du jeu de gestion des années 2000, t'auras Puerto Rico, ensuite t'auras Kellus et t'auras Agricola. Alors, ces trois jeux ont des mécaniques qui n'ont pas grand chose à voir, mais c'est juste que, clairement, c'est Puerto Rico, il a mis les jalons qui ont ensuite permis à Kellus d'exister, qui ont permis ensuite à Agricola d'exister, quoi. C'est-à-dire ces idées de tu gères des ressources, je veux pas tout répéter, mais voilà, ces aspects jeu de gestion, jeu à l'allemande, et surtout la popularité qu'a eu Puerto Rico a permis justement de, parce que voilà, le jeu de société c'est un marché, quoi. Donc du coup, vu que ça a eu une petite popularité, c'est pour ça qu'ensuite il y a plein d'autres jeux de gestion qui ont pu naître, hein. Je pense à tous les Istari n'auraient jamais existé, je pense, sans Puerto Rico, tu vois.
Ouais. Ça a un effet de mode quelque part, quoi. Un courant
ouais, exactement,
et qui se prolonge beaucoup.
Bah
très
ouais,
beaucoup.
Bah, en fait, maintenant qu'il commence
Peut-être
un peu à
trop.
se. Ouais. On va pas faire ce débat aujourd'hui, mais qui commence un petit peu à s'essouffler, on va dire, pour être ouais. gentil.
C'est, disons que ça devient difficile de renouveler un genre qui a, du coup, si on s'en tient au Puerto Rico, qui a 16 ans.
En vrai, ça, c'est un peu l'excuse des éditeurs pour sortir des jeux pas innovants, quoi. Mais en vrai, il y a plein de manières d'innover le jeu de gestion auxquelles ils n'ont pas pensé, juste parce qu'ils font tous des jeux de poste d'ouvrier, quoi. Mais c'est un autre débat, on a dit.
Très bien. En tout cas, je pense que tous les deux, on sera d'accord pour dire que si Puerto Rico sortait aujourd'hui, il n'aurait pas à pallier.
Ouais, je pense qu'il serait même encore innovant.
Et du coup, c'est pas étonnant de le voir réédité cette année.
Non, ouais. Il a toujours été disponible au final.
À peu près, je pense que ça devait être difficile de le trouver effectivement ces derniers temps, parce que je sais pas quelle édition en français on pouvait trouver, puisque l'édition Deluxe. L'édition Deluxe n'était plus disponible et Philosophia n'est plus.
Ouais, bah c'est à ce moment-là d'ailleurs, c'est quand Tilsit a disparu que Philosophia a repris, c'est quand Philosophia a disparu que Aléa a repris en fait, quelque part. Donc à chaque fois qu'un éditeur meurt, il y en a un autre pour rééditer Puerto Rico en fait, j'ai l'impression. Bon voilà. Bref, il a connu moultes éditions, ce qui confirme qu'en fait c'est un jeu phare quoi. Du coup, pour conclure, on peut peut-être rapidement donner notre avis chacun sur le jeu.
Eh ben ouais.
Moi perso, du coup, pour compléter avec ce qu'on disait avant, je pense qu'effectivement il a pas à pallier s'il sortait aujourd'hui. Et notamment parce que pour un jeu de gestion, je le trouve très très interactif au final. On parle souvent justement de jeux très froids, jeux à l'allemande, tout ça. Mais lui, avec son côté, tu choisis un rôle, c'est pour tout le monde, ça te force à regarder tes voisins. La phase de bateau du capitaine où tu exportes tes ressources, elle a une petite mécanique qui fait qu'on peut se bloquer. Ouais. Pareil pour les ventes de ressources avec le marchand, voilà, même le paysan au final indirectement tu peux te bloquer, il y a vraiment une interaction quand même beaucoup plus forte je trouve que sur les jeux de gestion aujourd'hui qui sont de plus en plus indirects. On a dit que c'était beaucoup de la pose d'ouvrier, la pose d'ouvrier c'est clairement une mécanique vachement plus indirecte.
C'est même je trouve de moins en moins bloquant en fait quand on regarde. On peut essayer de prendre quelques jalons sur la pose d'ouvrier, quand on regarde Agricola qui est quand même une pose d'ouvrier qui est méchante, dans le sens où je prends une action et elle n'est plus disponible pour les autres. On regarde aujourd'hui un jeu qui a pas mal marché dans la pose d'ouvrier, je pense à Pierre de la Mer du Nord, on est sur une pose qui n'est plus contraignante, c'est-à-dire on ne bloque plus l'adversaire. On pose un meeple quelque part, l'autre peut le reprendre pour faire une action. Donc c'est
effectivement,
Il y a une évolution dans ce secteur. Et le jeu est aussi interactif dans le sens où, alors tu le disais, il faut regarder ses adversaires, mais c'est vraiment, il faut choisir son coup en fonction vraiment des autres, parce que si on choisit une action qui va bénéficier aux autres, ou sur laquelle en tout cas on ne fait pas beaucoup de différence, c'est potentiellement une mauvaise action. Alors, après, il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais en tout cas, on remarque que souvent, on peut faire des assez gros coups dans Puerto Rico en faisant parfois des actions qui n'ont aucun bénéfice pour les autres joueurs. Donc, il est quand même important de regarder les autres. Et d'ailleurs, je trouve que cet effet-là va induire parfois un peu de guessing dans Puerto Rico. C'est aussi un feeling qu'on retrouve d'ailleurs dans Race for the Galaxy, où il faut essayer de deviner ce que vont faire les autres pour que ta propre action soit le plus bénéfique possible.
Bah d'ailleurs j'avais lu je sais pas ce qu'il en est parce que c'est des théories, il y a des grands théoriciens de Puerto Rico comme ça sur les forums depuis 10 ans là qui se font des stratégies et tout.
Ah, tu m'avais envoyé un lien qui était assez impressionnant. Il faudra absolument qu'on le mette dans le billet. Il faut absolument que tous nos auditeurs sachent la vérité sur Puerto Rico.
En fait c'était une personne qui avait fait une méta-analyse en fait de toutes les reviews, donc on peut traduire ça par les commentaires, mais c'est pas vraiment des commentaires quoi, les revues quoi, les critiques qu'il y a eu de Puerto Rico sur Board Game Geek,
sur BGG,
et du coup il faisait ça, genre il analysait les mots qui ont été le plus utilisés, des trucs comme ça, mais aussi du coup il s'est vraiment tout enquillé quoi pour voir ce que les gens pensaient de Puerto Rico, et du coup à partir de ça il a remarqué que effectivement a priori il y aurait plusieurs stratégies possibles, et surtout qu'il y a il y avait des contre-stratégies quoi, qui existaient.
Mmh.
Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est que du coup, tu disais qu'on peut faire des coups avec beaucoup de points, etc.
Ouais.
Et a priori, il y a des, par exemple, dans une table, si tu joues toujours avec les mêmes joueurs, tu vas peut-être t'entériner dans une certaine stratégie.
Ouais.
Il suffit qu'il y ait une personne qui sorte la contre-stratégie de ça et il va quasiment gagner automatiquement.
Mmh.
Donc du coup, au final, c'est pas un jeu qui est si... c'est intéressant, qui est pas si fermé que ça, quoi. Il y a toujours moyen, a priori, de contrer une stratégie. Ouais. D'après, hein, encore une fois, d'après ce que j'ai lu,
ouais,
mais
ouais.
Moi j'ai pas assez joué pour dire ça, mais du coup, ça fait que le jeu est quand même pas si fermé que ça. Et du coup, ça rejoint le deuxième point que je voulais donner par rapport à mon avis sur le jeu. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'Américains, enfin, peut-être pas que les Américains, mais c'est surtout des Américains qui ont tendance à critiquer le jeu en disant que, à partir du moment où tu joues avec un débutant, c'est forcément, alors là ça dépend du théoricien, tu vois.
Ouais.
Mais
bon, c'est là que les théories sont mauvaises, hein.
Ouais, plus, voilà,
ça dépend des théoriciens, mais bon,
c'est pourri quoi. Mais c'est là, ils vont dire qu'à partir du moment où il y a un débutant à la table, c'est forcément le joueur à sa gauche qui gagne ou le joueur à sa droite. Des fois ça dépend de la théorie, tu vois. Mais
la dernière fois on était trois, il y avait un débutant et effectivement je peux te confirmer que c'était le joueur à sa droite qui a gagné.
Waouh, théorie confirmée. Non mais voilà, tu vois, la question c'est soit le joueur à la gauche parce que du coup il prend des actions qui l'aident sans faire exprès, soit le joueur à la droite parce que du coup le joueur à la il saura pas bien utiliser les actions du joueur à sa droite, enfin ou le joueur à sa droite pour enfin pff, bon. C'est nul quoi. En bref, je trouve que cette critique est complètement injustifiée. Parce que je trouve que Puerto Rico, c'est vraiment loin d'être le pire jeu où, quand tu fais une erreur, t'es pas énormément puni, en fait, dans Puerto Rico. Tu vas juste prendre un petit retard de points de victoire, mais c'est pas comme dans des jeux... Alors là, je prends un exemple un peu extrême, mais des jeux comme Saint-Pétersbourg, qui est un jeu que j'aime beaucoup, quand même. Mais Saint-Pétersbourg, c'est un jeu de construction de moteur.
Mmh.
On peut prendre d'autres exemples comme Century ou des choses comme ça.
Ouais.
Où là, pour le coup, si tu te foires, mais t'as un effet rétroactif qui fait que dès le premier tour, tu peux perdre la partie.
Ouais, tes premières actions sont très très conditionnantes, quoi.
C'est ça. Alors mais pas que les premières. C'est juste dès que tu fais une action, ça a une influence sur tout le reste du jeu presque. Tu vois, c'est.
Mais je suis d'accord que dans Puerto Rico, les premières actions sont pas si importantes que ça. Au bout d'un moment, il va falloir que tu choisisses une stratégie quand même. Mais t'es assez ouvert encore pendant un bon moment de la partie finalement.
Ouais. Puis au final, même si tu perds, j'ai pas le sentiment que si t'as fait un mauvais coup. Tu vas perdre des points de victoire, tu vas peut-être perdre la partie, mais c'est pas monstrueux, quoi.
Mmh.
Franchement, Saint-Pétersbourg, au premier tour de jeu, je joue automatiquement. Quand je joue avec des débutants, je lui dis, toi, tu fais ça, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Tu vois, je réfléchis même pas parce que je lui dis, si tu fais pas ça, t'as perdu la partie tout de suite, tu vois. Mmh. Et je te promets qu'il y a des Américains, enfin, en tout cas, j'en ai vu, en tout cas, beaucoup, disent vraiment que Puerto Rico, au tour 1, tu peux perdre la partie. Mais c'est complètement faux, tu vois, et ça va complètement justement à l'encontre du fait de l'idée qu'il y a plusieurs stratégies possibles,
ouais,
tu vois. Et c'est des critiques que beaucoup de gens font, enfin, c'est surtout des gens qui aiment pas le jeu pour le coup, hein, qui disent ouais, c'est un jeu où tu joues automatiquement, etc. Mais en fait, bah, pour moi, c'est complètement faux, quoi. Et justement, a priori, il y aurait effectivement moyen de contrer des stratégies, donc c'est encore
alors,
d'autant
est-ce
plus.
Est-ce que la dernière stratégie de contre est contrée par la première stratégie?
C'est plus compliqué que ça, il y en a plus que 3.
Ah, non, mais.
Mais pour le coup, il y a toujours.
J'ai pas dit qu'il y en avait que 3.
Ah oui, oui.
Et s'il y en a 12, est-ce que la 12e stratégie est contrée par la première? C'est ça
mais
la question.
Mais ça fait pas, si tu veux, ça fait pas un Ouroboros, tu vois, ça fait. Ça fait plus une étoile, tu vois. Mais en gros, t'as toujours une stratégie qui peut en contrer au moins une, a priori.
Très bien. Bah, il faut faire combien de parties alors pour vérifier ça?
Je sais rien. Énormément. De toute façon, ils analysent sur des tournois, donc c'est vraiment de l'analyse un peu plus méta, quoi.
Bon, allez voir l'article, c'est assez rigolo. Ne serait-ce que pour savoir comment trier les pions colons au début, parce qu'il faut en mettre un certain nombre. Et compter 80 pions, c'est chiant.
Alors il y a un mec, il a eu l'idée de génie, ouais. Vas-y, je te laisse expliquer.
Visiblement, il faut prendre des règles et voilà. En gros, on va mettre ces pions en triangle, ce qui fait que on connaît le nombre de pions qu'il y a sur un certain nombre de lignes. Voilà.
C'est quand même le moyen le plus chiant de mettre en place son jeu, on est d'accord. Et t'as pas du tout l'air bête surtout. Un génie. Enfin voilà, du coup, c'était à peu près tout, moi, du coup, ce que j'avais à dire sur Puerto Rico. Mais bah, sinon, ouais, voilà, c'est un super jeu, quoi. Si vous y avez jamais joué, jouez-y. Même, comme on a dit, hein, s'il sortait encore aujourd'hui, il aurait pas à pâlir. et justement peut-être même qui l'innoverait avec sa fameuse mécanique de rôle qu'on n'a pas vu très souvent, quoi. Donc peut-être qu'il serait innovant aujourd'hui, je sais pas exactement.
En tout cas, il y a des chances qu'il soit innovant si jamais il avait pas existé.
Ouais, voilà, c'est ça vraiment, quoi. S'il avait pas existé, des jeux comme Race auraient pas existé, etc. Je pense. Et du coup, peut-être même en sortant aujourd'hui, je pense qu'il serait innovant, quoi. Même malgré tous les jeux de gestion actuels qui pullulent un peu de partout, lui, il aurait sa nouvelle mécanique de rôle qui est intéressante. Et surtout, bah, au final, il pallie à ce fameux problème d'interaction. Je disais qu'il était très interactif, mais aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens reprochent aux jeux de gestion de ne pas avoir d'interaction, et du coup, peut-être qu'il s'attirerait ce public-là, en fait. J'en sais rien, c'est purement hypothétique.
C'est effectivement fort probable. Et puis, on peut ajouter que ça reste un jeu qui est fluide. Hein,
Ouais, bah vas-y, tiens, tu n'as pas donné ton avis, toi, sur le jeu, du coup.
Ah, mais si, moi, j'ai acquiescé en ton sens, mais effectivement, moi, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Effectivement, je place Rise for the Galaxy devant parce que je lui trouve un côté plus nerveux. Pour autant, je trouve que Puerto Rico est malgré tout assez fluide, même si les parties sont longues. Moi, je les vois pas passer, en fait.
Ouais, pareil, moi en fait je suis toujours surpris à la fin de voir que j'ai joué 1h30 alors que j'ai l'impression que ça s'est fait en 3/4 d'heure.
Ouais. Il y a vraiment des choix qui sont cornéliens. Il y a parfois des choses qui paraissent assez évidentes, hein. Ça, c'est vrai que ça arrive, hein. c'est ce qui permet, je le disais tout à l'heure, un peu de guessing. Mais il y a la plupart du temps les choix sont présents. Et ça aussi, c'est vraiment une marque, la marque d'un grand jeu. Voilà, donc c'était Puerto Rico, donc un jeu qui a été publié à l'origine chez Alea et qui reparaît cette année chez Alea, comme quoi la boucle est bouclée, hasard du calendrier pour le coup. Un jeu pour 2 à 5 joueurs, puisqu'aujourd'hui c'est comme ça qu'il est affiché, pour des parties de 60 à 120 minutes à partir de 12 ans. Alors on l'a pas dit, mais la version actuelle contient les deux extensions dont on a parlé, voilà. Et elle est disponible à 32,50€ chez Philibert. Voilà. Peut-être qu'on n'arrivera pas toujours à vous parler de jeux disponibles, quoique sur la petite shortlist qu'on s'est faite, globalement on se rend bien compte que les jeux dont on va vous parler dans cette chronique sont effectivement toujours présents malgré qu'ils aient 10 ou 15 ans.
C'est pour ça que c'est des grands jeux aussi qu'on chronique, quoi.
Et voilà. Eh bien, on vous dit à dans 2 mois.
N'hésitez surtout pas à nous donner votre avis sur cette chronique ou à rajouter un commentaire dans le billet, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez nous soutenir financièrement, sachez qu'on a un Tipeee et qu'on accepte aussi les dons PayPal. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur notre site podcast.proxy-jeux.fr. Et bien, d'ici là, n'oubliez pas les grands jeux surtout. Et jouez bien.
Et autant Small World est sorti en 2009, mais Vinci, lui, est sorti en 1999.
Et Vinci est mieux.
Si tu le dis.
Donc tu avais dit qu'il était contrôleur financier, c'est ça ?
Oui. Alors en tout cas, c'est ce qu'il déclarait en 2005.
Ce qu'il déclarait bien, c'est réussi.
Écoute, j'ose l'espérer. En tout cas, il est allemand, donc s'il déclare ses impôts, c'est en Allemagne, donc ça ne nous regarde pas.
Ça ne nous regarde pas. Pourquoi on disait ça, en fait ?
Je sais pas. Parce qu'on disait que c'était un jeu qui aurait pas à pallier aujourd'hui.
Ah ouais, ok. Cool. Au pire, on le cutera.
Ouais, on va cutter beaucoup. Mais la version actuelle contient les deux extensions dont on a parlé.
Putain, je suis deg. D'ailleurs, au final, au passage, 32,50€, c'est pas très cher au final pour un jeu de gestion.
Non,
surtout
c'est vrai.
S'il y a deux extensions dedans, limite, moi je l'achèterais juste pour les extensions. Maintenant que j'y réfléchis.